Interview.
10 pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou alors en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de monsieur Richard Gibouin, bonjour.
Bonjour.
Et de monsieur Abdou Barakat, bonjour.
Bonjour.
Tous les deux, vous êtes ici pour nous parler d'une de vos activités au sein de Vercors Escapade et qui propose donc des séjours au Maroc pour des randonnées principalement.
Oui, des séjours au Maroc, effectivement. En fait, on fait partie de l'association Équilibre et on travaille en lien avec Vercors Escapade et on organise des séjours au Maroc à but humanitaire. Même si c'est...
À but non lucratif.
À but non lucratif, voilà, exactement.
Alors, on peut peut-être présenter cette association Équilibre Maroc.
Oui.
De quelle période a-t-elle commencé?
Alors, cette association, elle a été créée en 2010 par des gens du Diwa, en lien avec une association marocaine qu'on a connue suite à des séjours personnels, une association qui s'appelle Tassort, qui travaille dans l'alphabétisation des femmes marocaines.
Pourquoi cet attrait pour le Maroc? J'imagine que les territoires doivent être magnifiques. Il y a une démarche aussi de solidarité, en quelque sorte, avec la population. Je reviens un peu sur l'alphabétisation, ou du moins de ces femmes marocaines. Qu'est-ce que vous avez éprouvé et nécessaire à faire auprès d'elles, justement, pour qu'elles puissent apprendre le français, en quelque sorte? Vous lui apprenez le français?
Alors, au début, non, c'est plutôt apprendre l'arabe.
Oui.
Parce que c'est dans le sud du Maroc, et les femmes ne parlaient pas toutes l'arabe. Et comme, en général, les maris étaient partis dans les grandes villes pour travailler, elles avaient besoin d'apprendre l'arabe. Et donc, cette association Tassourt leur apprenait l'arabe pour remplir les papiers, pour les démarches administratives.
Et ce sont elles aussi qui accueillent un peu les touristes pour ces séjours ou pas? Non,
Non, c'est plutôt l'association Tassourt qui organise les accueils.
Voilà, mais il y a aussi une immersion au niveau de la population par rapport à vos randonnées organisées.
Oui. Par exemple, on travaille, non, c'est pas du travail quoi, mais on a un lien avec une association de femmes à Eid El Farsi qui se sont regroupées pour justement travailler les épices pour avoir un revenu, vu que les époux sont partis. Donc on travaille avec elles, et elles nous accueillent aussi, effectivement.
Et le but aussi, c'est de, voilà, d'essayer qu'elles puissent pérenniser leur activité, tout en restant en fait en lien avec l'association. On essaie aussi d'apporter, par exemple, en fait, l'année dernière, on a pu acheminer en fait un moulin à épices, pour qu'elles puissent en fait continuer aussi à travailler les épices, quoi.
Comment vous êtes-vous embarqués tous les deux dans cette aventure? Est-ce que c'était aussi une sollicitation d'une population qui avait envie de connaître au-delà de leur contrée?
Alors nous, on est partis plusieurs années en famille au Maroc. On a fait des rencontres vraiment très intéressantes. Et puis, effectivement, j'avais envie de proposer un séjour. Et ils avaient la demande aussi, parce que les personnes que je connais travaillent dans la restauration, dans l'hébergement, et ils m'ont vraiment poussé à organiser des séjours. Sauf que ces séjours, on ne voulait pas qu'ils soient juste des séjours de touristes, on voulait qu'il y ait une retombée locale. Et on a rencontré une association sur place, donc Tassourt, que j'ai cité tout à l'heure, et donc on travaille ensemble depuis, quoi.
Il y avait une volonté d'amener aussi un savoir-faire, des connaissances, d'échanger des connaissances au-delà même des randonnées, simplement des randonnées, et de développer aussi une activité.
Oui, tout à fait. Nous, on amenait nos connaissances par rapport à la gestion des hébergements, du tourisme, et eux nous ont apporté des connaissances essentiellement culinaire, j'ai envie de dire.
Et puis, culinaire, culturel aussi,
d'une façon d'accueillir les gens différente.
L'hospitalité.
Ouais. Voilà.
Vous prévoyez, pour l'instant, si c'est possible, des séjours à venir à partir du mois d'octobre 2021, si tout va bien. Et sinon, il y aura aussi au printemps 2022.
Ouais, moi je pense qu'on va tabler plutôt sur le printemps 2022 parce que, bon, vu cette crise actuelle, là, on ne sait pas comment ça va déboucher par la suite, quoi. Et que, on essaie d'organiser, de penser, de réfléchir déjà un petit peu au séjour qu'on pourrait faire au printemps 2022. On a quelques idées, on pourrait même d'ailleurs les énoncer, là. Moi, en particulier, j'aimerais bien organiser un séjour gastronomique à travers différentes villes du Maroc, quoi. Ville impériale aussi, quoi. Et voir aussi, même jusque dans le désert, quoi. Et après, Richard, toi, tu as un séjour de randonnée. Plus trek, peut-être, plus...
J'ai deux séjours. J'ai un séjour plus ou moins familial, où on fait un peu de balade, mais surtout, on va voir les gens et on mange chez les gens. Et puis, il y a un séjour vraiment trek dans la montagne, sur le Mgoun.
Alors, en gros, il y a les séjours chez l'habitant, on peut dire aussi.
Alors, on ne dort pas chez l'habitant.
Non.
Parce que quand on est 12, c'est un peu compliqué. Mais par contre,
l'habitant. On va rencontrer les habitants.
Voilà, on mange chez eux. Voilà.
Et j'imagine que ça a permis d'établir des liens très personnels avec des personnes du Maroc et vous. Et de peut-être aussi de progresser sur d'autres activités à venir.
Alors, de toute façon, on a connu ces gens-là. On est parti en famille avec notre gamin qui avait 5 ans.
Oui.
Et il y en a la plupart, ils font partie de la famille. Ils ont connu mon gamin, ils ont gardé mon gamin. Abdou, c'est pareil, chez Aïcha. Tu te souviens d'Aïcha?
Oui, je me souviens très bien. Après, par rapport aux activités, oui, si on peut amener et développer d'autres activités, en fait, dans ces coins du Maroc, on est tout à fait, en fait, prêt à s'investir encore plus, quoi. Notamment, il faut qu'on parle aussi de l'ambulance.
De l'ambulance.
Les pompiers qu'on a amenés aussi l'année dernière, quoi. Voilà, on a pu offrir, l'association a pu offrir, en fait, une ambulance à Alnif.
Alnif,
voilà, dans un petit village à Alnif, qui attendait ça depuis quelques temps, quoi. Et on aimerait aussi, continuer des projets dans ce même genre de... Comment dirais-je, je ne trouve pas le mot.
Dans ce même genre.
Oui, voilà, dans ce même genre, ouais, tout à fait.
Oui, c'est vrai que, donc, en gros...
Il y a l'histoire du car aussi qui a été...
On a amené un grand car de 45 places, qui a été offert par le Conseil général de la Drôme. Gratuitement. L'ambulance, elle a été donnée par une association. En fait, notre association Équilibre, c'est une sorte de création de réseau. On informe les gens des besoins du Maroc et s'ils ont des infos, ils nous les font passer et nous, on s'organise pour arranger les choses.
Alors, je dirais pas des besoins du Maroc, mais des besoins
De la région où on va.
De certains villages ou petites villes, en fait, voilà. Mais je pense que dans d'autres villes du Maroc, Ils n'ont pas besoin.
Par rapport à ces séjours au Maroc, est-ce que l'inverse est aussi proposé pour des gens du Maroc à venir en séjour ici, chez nous?
Alors, jusqu'à présent, on a réussi à faire venir plusieurs fois... notamment les femmes de l'association Aït El Farsi, les responsables de l'association Tassourt. On a réussi à les faire revenir à Châtillon. Et l'idée ultime, on espère, c'est pourquoi pas créer un jumelage.
Avec Châtillon?
Avec Châtillon. On en a déjà parlé, donc c'est dans les cordes, mais ça demande beaucoup de travail.
Alors, à l'heure actuelle, je suppose que votre activité est très impactée par le Covid actuellement. Qu'en est-il de votre activité en général? Vous avez accusé le coup au niveau de l'organisation de ces randonnées. Et est-ce que vous avez des limitations imposées aussi au niveau des participants?
Alors, pour ce qui est des randonnées en montagne, moi, j'ai arrêté en France. Je fais qu'au Maroc. Mais je sais qu'en France... il faut un accompagnateur pour 5 personnes. Voilà, donc plus que 6, il faut 2 accompagnateurs.
Voilà, et je reviens, donc est-ce que il y a eu un impact au niveau de vos activités proprement dites avec l'association Équilibre Maroc?
Ah bah là, oui, clairement. Oui. Oui, oui. Pour l'instant, c'est que des contacts.
Oui, oui, mais il y a eu des conséquences même pour même au Maroc là-bas. On le voit avec comment il s'appelle le gîte à Tamou.
Oui. À Tamalout.
À Tamalout, fait, forcément, parce que bon, c'est sûr que l'association en fait Équilibre organisait des séjours dans ce gîte, et forcément, il y avait une retombée économique locale quoi, en fait, pour ce village quoi. Et là, c'est vrai que il n'y a plus rien. Donc parfois, à titre perso, même avec l'association, on en discute quoi, on envoie de l'argent perso en fait pour aider quand même ces familles là quoi.
Voilà, on passe par le biais de l'association. On diffuse à nos connaissances, on leur donne les problèmes, et les gens qui veulent aider, ils aident.
Juste pour rappeler, oui. Moi je ne suis pas en fait dans l'activité rando, je ne travaille pas pour faire quoi Escapade. Moi j'ai juste en fait l'hôtel du Dauphiné à Châteaurin-du-Oie. Voilà, et j'ai connu en fait Richard et Sylvie avant de devenir trésorier. Parce que j'avais organisé un concert de Gnawa en 2017, il me semble, ouais. Deux concerts de Gnawa. Et c'est là où on s'est rencontrés. Et c'est là, en fait, voilà, où on a commencé à tisser des liens, tout ça. Et comme j'ai su qu'il travaillait pour une association marocaine, c'est là où je me suis greffé, moi, en fait, voilà.
Vous parliez du paysage assez similaire à celui du Diwa. Au niveau de l'infrastructure de la ville ou du village, il y a aussi des aides à apporter.
Oui, il y a plein de choses à aider. Je pense par exemple
à la gestion des déchets.
Ouais. À la gestion des déchets. J'en avais parlé avec je sais plus qui de la communauté de communes. Il m'a dit que ça serait compliqué de faire un partenariat, mais bon, il y a des choses comme ça. Il y a toujours les ambulances. Ça, c'est clair.
Si oui, quelqu'un oui. Ils ont beaucoup besoin de transport, en fait.
Et de transport, oui.
De transport, surtout, en fait. Surtout pour les gens malades ou les gens blessés. C'est vrai que dans certains villages reculés, ils n'ont pas d'infrastructure. Même au niveau des hôpitaux, tout ça, c'est encore assez compliqué, quoi. Voilà.
Et puis, au niveau des écoles, ils ont besoin de... Par exemple, on a une demande de dictionnaire français ou de livres français assez simples pour apprendre le français. Ils sont dans cette demande aussi.
En général, ce sont des ouvrages qui peuvent être d'occasion aussi, que vous réceptionnez, ou plutôt des éditions neuves?
Les dictionnaires, ça peut être... faut pas que ce soit trop vieux non plus.
Ouais, d'occasion, sans qu'il soit trop neuf. Quoi.
Par contre, les ouvrages, il faut que ce soit neuf. Et par contre, il faut que ce soit contrôlé, parce qu'il y a des règles là-bas, il faut que ce soit soumis au recteur avant.
C'est plutôt des ouvrages pédagogiques, en somme.
Voilà, oui.
Je parlais donc de cette infrastructure de ce village. On peut le comparer à quoi par rapport à ce qui existe actuellement dans ce village? Est-ce qu'il y a l'électricité? Il y a de l'eau? Enfin, je ne sais pas si je le garde, mais c'était de situer un peu le contexte.
On parle d'Alnif.
Oui, on parle d'Alnif.
Oui, il y a de l'électricité, il y a de l'eau, quoi.
Oui. Il n'y a pas de souci. Il y a un dispensaire.
Oui, il y a un dispensaire, ouais.
Une pharmacie, et puis une route.
Et l'activité professionnelle, quels sont les... ce village vit de quelle activité, en somme?
Beaucoup d'artisanat, en fait, de commerce. Il y a un peu de tourisme, mais pas beaucoup.
Ça vient peut-être de situer un petit peu où ce qu'il est le village, parce qu'on n'est pas loin du désert non plus. C'est vrai. Alors, moi j'y étais pour la première fois, en fait, c'est Richard et Sylvie qui m'ont invité là-bas, quoi. Et c'est vrai qu'on n'est pas loin du désert. On est quoi, à 3 heures peut-être du désert, 2h30, 3 heures, je pense, Zagora.
3 heures. Le plus près, c'est Merzouga.
Ouais, Merzouga plutôt, ouais.
Merzouga, c'est à 1h30.
1h30, 2 heures, voilà. Ouais. Et bon, il n'y a pas beaucoup d'agriculture. Par contre, ils sont calés au niveau irrigation. Moi, je trouvais ça assez fabuleux, en fait, comment ils irriguaient, en fait, leurs champs, quoi. À côté de... tu pourrais parler aussi, comment il s'appelle, du chercheur...
Il est de quelle altitude, ce village?
Ça doit être 800 mètres, il me semble.
Je ne sais plus. Moi, je
pourrais peut-être pas un dire. Peu plus haut, mais 800 mètres. Et c'est vraiment le désert. Hein. Depuis, en fait, ils sont en problème d'eau depuis une trentaine d'années. Ils n'ont plus d'eau, pratiquement. Donc,
Et on a déterminé la raison de cet arrêt de l'eau ?
Ah non, pas du tout. Non.
C'est le désert qui prend le dessus petit
voilà,
à petit.
Voilà, petit
tout
à
simplement.
Petit. Oui, ça pas, je ne pense pas que c'est un rapport au réchauffement climatique, parce que ça date de plus longtemps que ça.
Et je suppose que vous êtes aussi allé faire quelques pas dans ce désert.
Oui.
Et quelle est cette impression, une fois situé dans un désert, qu'est-ce qu'on éprouve ?
Ben moi, je me croyais dans... Ouais, bon, c'était surréaliste déjà. Et quand je marchais, je me croyais complètement ailleurs, quoi. J'étais, je vais pas dire sur Mars ou sur la Lune, mais ça donnait en fait cette impression-là, quoi, en fait.
Il n'y a aucune végétation.
Pas de végétation.
Un peu d'herbe. Oui. Mais par contre, il y a de la vie, par contre.
Oui, il y a de la vie.
Il y a plein de petites bestioles.
C'est sûr.
Qu'on voit surtout la nuit. Mais le désert, ça fait penser un peu au plateau en hiver. On a des perspectives comme ça, on a des petites bosses qu'on reconnaît, qui changent un petit peu de temps en temps suivant le vent, mais on arrive toujours à se repérer. Et il arrive des fois, comme quand il y a le brouillard sur les hauts plateaux, il y a la tempête de sable et d'un coup, pareil. Alors nous, on appelle ça le jour blanc, là-bas c'est le jour orange, parce que le sable est orange.
Ben voilà, voilà. D'ailleurs, il est arrivé ici, il n'y a pas très longtemps.
Oui, c'est vrai.
I'm not afraid. قال سموني نولا تنذوذ حرم الطاول في تغسرو ثنجاوا واش غسرو ثنجاج ايو جينو غسرو ثنجاج نذخوك ومان هو نذخوك ومان قشديم عريم الطواوني ضد غزر وثنجاوان غزر وثنجاج.
Comment se passe un séjour à Almif organisé par vous pour combien de personnes? Vous disiez 5 personnes maximum, je suppose.
Non.
Six, ou plus, avec plusieurs accompagnateurs. Comment ça s'opère donc?
Vous voulez dire l'organisation à la base ou
le séjour.
Donc, en fait, les gens prennent leur billet. On se donne rendez-vous au Maroc. Hein. On les aide à prendre le billet quand même. Et puis, on part soit de Marrakech, soit de Ouarzazate, suivant les séjours. Et on se fait des petites étapes. On dort sur un lieu. On tourne autour le lendemain. Ensuite, on part sur un autre lieu. Et suivant le désir des gens, parce qu'on adapte nos séjours, on peut faire un trek de 3 jours dans la Vallée des Roses. C'est pratiquement obligatoire de faire un petit tour en chameau et dormir dans le désert, parce que les gens, ils aiment bien ça. Et après, on reste au moins 3 nuits à Al-Nif. Parce qu'à Al-Nif, c'est vraiment là où les gens connaissent l'association. Nous, on les connaît. Et on a les femmes de Aït al-Farsi à voir. On a aussi une petite balade de trilobites à faire. Trilobites, oui, c'est des petits fossiles avec Mohamed. Et voilà quoi. Et après, on rentre sur le départ. Donc ça va vite. Ça fait un peu de route. Donc c'est vrai que c'est un peu fatigant, mais il y a beaucoup de rencontres.
Alors un séjour qui dure à peu près combien de temps en somme?
On tape sur une douzaine de jours à peu près, une douzaine de jours.
D'accord, vous ne proposez pas des formules différentes de durée, par exemple?
Si, parce qu'il y a des gens qui nous demandent, par exemple, on a des familles, ils sont 5-6, ils nous disent on n'a qu'une semaine, on le fait. Ce n'est pas très intéressant, mais ils vivent quand même des choses bien. Mais le mieux, c'est 12-13 jours quand même.
Ouais. Après, on essaie de s'adapter et tout dépend du contenu aussi, en fait, du séjour. Voilà.
Comment s'organisent probablement les activités proposées? À partir de combien de temps vous prévoyez ces voyages? Et à partir de quel moment vous acceptez des postulants à ces randonnées?
Il faut savoir que nous, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on part qu'en automne ou qu'au printemps.
Oui.
Donc nous, on fait souvent des marchés dans le Diwa, des petits marchés. Où on revend de l'artisanat marocain. Et là, on affiche aussi nos séjours. Donc les gens se renseignent. Si ils sont intéressés, on voit combien ils sont. Et à partir d'un certain nombre de personnes, on définit un séjour. Et là, d'autres personnes peuvent se greffer dessus.
Les personnes qui sont passées par chez vous reviennent dans les années qui suivent ou alors est-ce qu'il y a aussi une demande croissante tout simplement de ces séjours d'un public?
Alors elles reviennent pas forcément parce que c'est quand même, ça demande des efforts, il faut s'organiser.
C'est très physique?
Ah non, c'est pas physique du tout. Quoi, ça dépend, il y a possibilité que ce soit physique. Mais non. On a fait des séjours avec des gamins qui avaient 5 ans, 6 ans. Quoi. Et puis la recordman, c'est combien? C'est 80 ans. Une dame de Menglan.
La doyenne.
Par rapport à ces activités, qu'est-ce qui est proposé le soir? Je suppose que vous redescendez en ville ou aux abords des lieux d'hébergement. Et qu'est-ce qu'on peut y découvrir aussi au quotidien sur ce village d'Al-Nif?
Eh bien déjà tout ce qui est culturel et puis surtout rien qu'une visite d'une palmeraie, ça peut durer des heures quoi, parce que toute la technique d'irrigation, comme disait Abdou, c'est incroyable. Leur système de culture à 3 étages, c'est-à-dire le palmier, les arbrisseaux et ensuite la culture d'en bas, c'est incroyable. Les visites des casbahs. Et puis après, ce qui prend le plus de temps, c'est les repas. Ça, ça prend du temps.
Ça, c'est plutôt festif, quelque part.
Et c'est un peu culturel aussi. Oui. On est dans la famille, on voit comment ça se passe, comment les gens mangent, où ils mangent.
Et donc, vous disiez que l'exploitation agricole utilisait des paliers en fonction des cultures, et de manière à ce que, finalement, l'eau descende toujours irriguer la plantation en dessous.
Alors, en gros, il y a un système d'irrigation particulier. Il y a toujours un responsable dans chaque village et c'est lui qui détermine qui a le droit à quel moment d'obtenir l'eau dans sa parcelle. Le système de 3 étages, c'est-à-dire que c'est les palmiers dattiers qui sont tout en haut. Donc ça, c'est une récolte principale au Maroc. Et ces palmiers, ils font de l'ombre. Donc ça permet aux arbrisseaux, comme la grenade, l'amandier, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Il y en a 5, je m'en souviens plus, quoi, des petits arbrisseaux, de ne pas être trop exposés au soleil. Et après, en bas, on a la luzerne, les légumes qui poussent. C'est les 3 étages.
C'est une culture qui existe depuis très longtemps.
Hein. Oui, c'est ancestral, c'est la culture des oasis, en fait.
Il y a plusieurs parcelles en fait, qui appartiennent à chaque paysan, quoi. Et chacun a sa parcelle, et au fur et à mesure, en fait, ils irriguent, quoi. Voilà.
Oui, et l'eau finit par arriver de toute manière. Ouais. Et cette eau, d'ailleurs, qui continue à cheminer, elle est récupérée encore ailleurs ?
Elle provient de sources.
Et des puits aussi, en fait.
Et de puits. Ouais. Ou des fois d'oued, qui canalisent. Et en fait, le principe, c'est qu'ils ont leur parcelle, et ils ouvrent la parcelle, et l'eau inonde la parcelle. Une fois qu'elle est inondée,
il referme
le canal et ça va chez quelqu'un d'autre.
Alors ça fait des tranchées, des longues tranchées, comme je peux vous faire montrer là. Voilà. Là, ça fait des longues tranchées. Ah, et après, ils ouvrent.
Oui, un peu comme ici, en somme.
Oui. Eh bien oui.
Oui, système d'irrigation par canaux dans les jardins ouvriers en bas de Die. Qu'est-ce qui vous a réuni tous les deux à vous retrouver dans cette association Équilibre Maroc?
Ben justement, c'est grâce au concert d'Ignawa que j'avais organisé. Pardon. Justement, c'est grâce au concert d'Ignawa que j'avais organisé. Et là, il y avait Sylvie qui vendait de l'artisanat marocain. Et voilà, j'étais curieux. Donc, je suis allé la voir. Et depuis l'année 8, on a commencé à parler. Et je me suis intéressé aussi à l'association.
En plus, cette année-là, il y avait Jamal et sa femme de l'association de ta sorte du Maroc qui était à Châtillon.
Voilà. Et qui m'ont aussi aidé en fait aussi à préparer un petit peu le repas marocain qui avait été organisé pour les Gnawa.
Les productions artisanales qui sont produites à Alnif, vous en développez ou en proposez ici par retour?
Alors tout ce qui est bijoux, c'est plutôt de l'achat qu'on fait dans la grande ville de Tinrir. Ce qui est vraiment local, ce qu'on propose, c'est surtout les épices. Les épices et les chèches. Les chèches, c'est...
Mais il faut dire, en fait, à Alnif, ce qu'il y a comme... Parce qu'il y a...
Alnif, c'est surtout la culture du cumin. Voilà. C'est vraiment le pays du cumin, le désert.
Comment alors s'opère le contact pour participer à ces randonnées au Maroc?
Alors, il y a... La solution la plus pratique, c'est de voir avec Vercors Escapades.
Sur leur site.
Voilà, s'ils ont des questions, ils donneront nos coordonnées. Hein.
Voilà. Vous-même, vous avez une page dédiée sur le site de Vercors Escapades par rapport à ce que vous proposez?
Il y a une page sur les séjours du Maroc, mais pour l'instant, elle n'est pas réactualisée parce que...
Mais il y a quand même de quoi, de quoi se documenter et puis de voir ce qui s'y passe.
Oui, et puis ils sont au courant, Vercors Escapades, ça fait plusieurs séjours qu'on fait avec eux. Et sinon, il y a... Oui, non, je pense que c'est le plus simple, Vercors Escapades.
Bon, après, ils peuvent passer aussi par l'association.
Après, ils donneront les coordonnées. Sinon, il faut appeler Sylvie directement.
Oui, oui.
À savoir aussi, il existe l'association Équilibre à l'NIF. Est-ce qu'il y a d'autres structures telles que la vôtre qui y sont aussi implantées? Est-ce qu'il y a une demande du tourisme français vers des contrées comme ça, du Maroc?
Alors, il y a le sud Merzouga qui est très demandé, oui, effectivement. Et c'est justement un petit problème parce que c'est un peu plus fréquenté chaque année.
De plus en plus.
Ouais. De plus en plus. Il y a toujours Marrakech, la Vallée des Roses pour les treks. Oui, il y a plusieurs structures qui organisent ça.
À l'image des femmes à qui vous donnez aussi la possibilité d'apprendre la langue arabe, est-ce qu'il y a un tel déficit au niveau du pouvoir pour aider sa population?
Le pouvoir, je ne le connais pas bien. Je sais qu'à l'arrivée du roi actuel, là, sa femme a fait beaucoup... a créé une association dont je ne m'en souviens plus le nom, pour justement aider les femmes et puis les écoles. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé...
Introduire aussi la langue berbère.
Voilà, ça a changé parce qu'avant, on n'avait pas le droit de parler berbère, on n'avait pas le droit d'avoir un prénom berbère. Et puis nous, ce qu'on a vu surtout, c'est, quand on est arrivé, c'est les fils électriques brillants, tout neufs, l'eau qui arrivait partout. Et c'est vrai qu'il y a eu des efforts. Mais bon, le sud du Maroc reste quand même un peu...
Il y a encore des efforts à faire. Mmh. Voilà,
Et comment vit la population? Relativement bien ou alors c'est beaucoup de difficultés aussi au quotidien?
Alors nous, quand on est là-bas, on a l'impression que c'est bien. Hein. Mais eux, ils ont un peu de... Ils aimeraient que ça soit mieux, quoi. Parce que... Que des pistes avec plein de poussière, de l'eau qu'il faut payer pour aller creuser un puits, et puis il y a toujours... mais bon, moi je trouve que c'est une belle vie là-bas, mais bon, moi j'y vais qu'en voyageur, quoi.
Ouais, c'est sûr. Mais bon, ça évolue, voilà, il faut dire que ça évolue.
Oui,
aussi,
ça évolue. Hein.
Timidement, mais ça évolue, quoi. Mmh. Je pense que...
J'imagine bien que la population voit ça d'un bon œil, quand même, ce progrès qui vient tout doucement, certes, mais il y a eu une évolution.
Oui, il y a eu une grande évolution, ça c'est clair. Hein. Oui, ça a bien bougé. Et après, on ne parle pas non plus des nomades qui vivent en montagne. Ouais, par contre, c'est un peu plus rude.
Pour eux?
Ouais.
Et oui, est-ce qu'ils sont même reconnus par le pouvoir ou l'État? Ou le royaume, je voudrais dire, plutôt.
Ils ont un statut spécial. C'est... comment dire? Ils font comme ils veulent tant qu'ils ne demandent rien. En gros. T'es d'accord, Abdou?
Je ne connais pas trop, en fait. Donc, c'est pour ça que je m'avance pas trop. C'est vrai que, bon, même si je suis marocain, et moi, je suis rentré à l'âge... de 7 ans en France, et c'est vrai que bon, après je suis retourné quelques fois au Maroc et j'ai fait une grande coupure avec le Maroc, et là j'y retourne depuis quelques années, et voilà, et ça me permet d'être plus motivé pour m'investir encore plus, voilà, pour le Maroc, quoi.
En gros, les nomades, on les laisse paître où ils veulent, leurs chameaux, leurs ânes et tout ça, mais il faut pas qu'ils créent de problèmes. D'accord. Voilà.
Ça a l'air quand même assez ardu, hein, cet univers, non?
Eh ben, pas tant que ça. Moi, je trouve que c'est simple.
Oui.
Moi, je trouve que c'est plus simple que d'aller en Espagne, aux États-Unis, en Australie. Quand on va là-bas...
Les gens, Tant qu'on ne crée pas le besoin, je pense que ils vivent modestement et humblement, je veux dire. Et je crois que c'est ce qui m'a fait un petit peu réfléchir quand je suis parti pendant 7 semaines, quoi, au Maroc, là, et que vivre tout simplement, je crois que c'est nous ramener aussi à l'essentiel, quoi. Et je crois que c'est, pour moi, c'est le plus important maintenant, quoi, voilà. De vivre l'essentiel, quoi, et profiter des instants présents, quoi, de la vie. Et c'est ce qui m'a appris ce voyage, quoi, en fait.
C'est pour ça que l'association, elle s'attache à ne rien faire pour que les gens s'orientent vers le tourisme, même si on amène des touristes, quoi. Toutes les actions qu'on fait n'ont aucun rapport avec le tourisme.
J'imagine que vous ne tendez pas à vouloir développer le tourisme, ça c'est sûr, mais plutôt vous, d'opérer par une construction, d'assister aussi à la construction du village et d'un mode de vie propice à eux-mêmes et qu'ils puissent y trouver aussi un intérêt.
Tout à fait, oui. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout, comment dire, c'est pour ça que ça s'appelle équilibre. Quand on arrive là-bas, ne pas changer l'équilibre, mais apporter des besoins réels. Voilà, c'est le but de l'association.
Et ça, c'est une constatation que vous avez faite pour opérer ainsi. Vous avez certainement vu d'autres secteurs, sans que vous y soyez responsable, mais vous avez vu certains secteurs du Maroc peut-être se retrouver avec un tourisme énorme et qui bouleverse même le cadre de vie de la population.
Eh bien, je ne sais pas.
Oui, dans certaines grandes villes, bien sûr, ouais. Le tourisme, en fait, bouleverse un petit peu le quotidien, quoi, des habitants. Et certains habitants sont même un petit peu réticents, je veux dire, même à la venue, en fait, de ce tourisme-là, quoi, de masse, quoi. Et je trouve ça dommage, en fait, que certains touristes, que ce tourisme, en fait, de masse ne respecte pas aussi le quotidien des habitants et l'environnement, surtout, aussi, quoi.
Ceci dit, oui.
Après, ça part pas forcément d'un mauvais sentiment. Hein. Il y a une grande société de voyage qui disait à leurs clients « Amenez des stylos et donnez des stylos aux gamins. » Et maintenant, quand on va au Maroc, dès qu'on voit un gamin, il dit « Stylo, 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 stylo. » Voilà. Et ça, nous, on essaye de pas rentrer dans ce jeu-là, quoi.
Voilà. Après, il faut le papier aussi, les carnets.
Voilà.
Non, mais ça... Je pose la question parce que j'essaie de comprendre un petit peu aussi comment... Alors là, c'est une parenthèse. Hein. Je connais une compagnie de cirque qui a joué au Maroc aussi. Et je crois que c'est... comment ça s'appelle un service de culturel franco-marocain et dans lequel ils mettaient le cirque était installé dans des villes comme Tanger par exemple, et Tanger donc ce spectacle de cirque avec chapiteau était limité au public aisé.
Ouais.
Et la population pauvre, elle, était autour et n'avait pas accès.
En fait, ouais.
Et pourtant, c'était le désir de ce cirque, d'aller au-devant de ce public. Il y a une espèce d'esprit colonialiste encore qui perdure, non ?
Oui, oui, oui.
Je ne sais pas, je pense que peut-être...
Moi, je pense qu'il faut vraiment revenir un peu à l'histoire, quoi. Je pense qu'il faut lire un petit peu, relire un petit peu l'histoire coloniale pour comprendre la situation actuelle, quoi. Et pas qu'au Maroc, aussi bien en Tunisie, en Algérie que dans d'autres pays africains. Je pense que c'est bien de relire un petit peu le passé colonial, quoi. Voilà, pour bien comprendre ce qui se passe actuellement.
Ouais, le passé colonial est bien présent. Hein, parce que nous, quand on va là-bas, pas toi Abdou, hein, mais nous, les Français, les Anglais, tout ça, on nous appelle les Romani.
Oui, ou même pour moi, ça m'est arrivé voilà, de me dire...
Les Romani, ça veut dire les Romains, parce que c'est les premiers Blancs qu'ils ont vus.
Oui.
Et nous, on les appelle les Berbères.
Oui, ou pour moi même, qu'on me disait encore que j'étais étranger là-bas, quoi, alors que je suis marocain, moi, mais voilà.
Est-ce que vous avez l'impression que tout est encore à faire
là-bas ?
Oui.
Non.
Ce serait un grand mot, tout est encore
à faire. Non, non, tout est fait. Hein. Oui. Il y a juste à poursuivre un échange et puis surtout à faire un échange plus, comment dire, plus simple, plus clair, plus équilibré.
Oui, alors ce qu'il y a à faire, c'est plutôt, je pense que... Mais ça va venir avec le temps, je pense que les Marocains, ils sont en train de prendre aussi conscience, quoi, que l'évolution des mœurs, c'est en train aussi, voilà, de se mettre en place petit à petit, et on va y arriver.
Eh bien, Richard Gibouin et Abdou Barakat, je vous remercie tous les deux d'être venus nous parler de l'association Équilibre Maroc qui agit au sein du Vercors Escapade. Vous avez votre page donc de cette association sur le site de Vercors Escapade afin de connaître les propositions à venir. Là, actuellement, on peut plutôt envisager le printemps 2022.
Alors, à Châtillon, il y a des marchés à chaque fin de saison. Donc en général, l'association est présente vers le bar du Dauphiné pour proposer de l'artisanat, des épices et puis des voyages.
Ça me revient, mais on a oublié de parler aussi de Bennett et Patrice,
l'association. Ah oui. Oui, parce qu'en fait...
On est en lien avec... voilà.
C'est pas trop tard pour en parler.
En gros, l'association Équilibre, c'est pas seulement le Maroc. C'est ouvert à d'autres propositions. Et on a donc des amis qui, eux, travaillent avec le Burkina. Donc, ils font partie de l'association. Et eux, ils travaillent sur... en lien avec des personnes, comment on va dire, références, mais c'est leurs amis. Ils travaillent, ils ont monté un gîte avec eux pour offrir, pour répondre à une offre touristique. Donc voilà quoi.
Une offre locale touristique et qui puisse subvenir en fait à leurs besoins quoi. Et par ailleurs aussi, il y a aussi, on a un ami aussi, mais qui travaille maintenant avec le Chili.
Au Chili aussi.
Au Chili, Didier.
Didier.
Voilà.
Voilà, donc c'est en fait...
On essaie d'ouvrir en fait l'association, voilà, que ce soit pas axé uniquement sur le Maroc, mais voilà, à divers...
Si des gens ont besoin de... si ça rentre dans nos idées, quoi, ont besoin d'une structure, on est ouvert. Et je remercie quand même Lady Wa, parce que chaque fois qu'on a fait une annonce dans le petit Diwa qui nous a bien aidés, ils ont tous répondu présent. Donc voilà, merci à vous.
Merci à vous.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous. Bonne soirée merci. Également.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري بيك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري
يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو لعباد قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو لعباد الغافلين قبلك
وعلاش هكداك الزوالي ما تدومش الداوي لا بطيت علم وكتب لي ما يدوموا الايام ولا يدوم صغرك وصغريك
كاين اللي خاب سعدوك ظهري
يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي
مسافر نعطيك وصايتي اديها عالبكري شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري يا نايم جاني خبرك كيما صرالك اسرالي هكذا راد وقدر في الجبين سبحان العالي
يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال غافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي
يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلين